Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création sonore sur Canal B.
Coucou, Gymnastique sonore, c'est une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les autrices. Et aujourd'hui, on est en direct pour les 40 ans de Canal B. Avec Claire.
Salut. Et
à toi, Claire.
Coucou. Allez. Et avec Ingrid.
Ouais, salut.
Ouais, c'est la technique. J'espère que vous allez bien entendre cette émission aujourd'hui.
Yes. Et avec Roulia. Et Flo. Et pour cette émission spéciale, on a tiré au sort le thème de l'émission et c'est ensorcelé qui est sorti du chapeau. Depuis, on marche sur la bordure, à la lisière. On laisse le champ pousser comme il veut. Nous, on se cache dans les haies pour vivre en adventice.
Alors, ensorcelée de ton côté, je suis là dedans, mais ça me va pas trop bien. Je pense pas à te dire que tu veux que je te dise que je te vois. Je suis là. Ensorcelée par le passé simple et la poterie et la bibliothèque du centre commercial et des conseils pour le taf et la poterie de mon jardin vert d'Angoulême et de la rue du Saint-Esprit. Ensorcelée par un petit bout du monde, je te donne mon numéro. Je suis désolée, mais j'ai rien compris. Ça va pas trop bien, je te redis. Bisous. Julia, je te...
Ouais.
Laisse le micro.
Je suis très contente de vous parler aujourd'hui un petit peu de sorcellerie. Moi, je me sens un petit peu ensorcelée en ce moment, je ne sais pas vous. Depuis que je m'intéresse à la sorcellerie, voilà, y a des choses qui sont en train de bouger. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer une anthropologue qui écrit sa thèse. Et on va pouvoir écouter une petite conversation qu'on a eue au téléphone.
Oui, salut Julie.
Oui, re-salut.
Ouais, tu m'entends bien?
Ouais, je t'entends là. Bah, j'étais au téléphone, désolée. Je cours partout en fait.
En tout cas, merci beaucoup de prendre ce temps là avec moi.
Mais de rien.
Tu me dis si t'es ok. On peut, dans un premier temps, si tu peux te présenter un tout petit peu, peut-être que tu peux m'expliquer un tout petit peu comment tu es arrivée à ce terrain et qu'est-ce qui t'intéresse.
Bien sûr.
Quelles sont tes problématiques?
Bien sûr. Alors, moi, de base, en fait, j'ai pas du tout une formation en anthropologie. J'ai un master en culture et patrimoine de l'alimentation que j'ai fait à Tours. Et après, j'ai fait une première année de doctorat que j'ai validée. Donc, c'était anthropologie d'alimentation et droit pénitentiaire. Et je faisais des recherches sur les pratiques alimentaires en maison d'arrêt. Voilà. Et c'était un peu compliqué de continuer parce que pour faire mes ethnographies en maison d'arrêt, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de blocages, d'interdits, donc au final j'ai laissé tomber. Et puis je voulais intégrer les pratiques alimentaires à tout ce qui était néopaganisme, sorcellerie et tout ça. Et en fait, de base, j'avais un entourage qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était pratiques ésotériques, notamment la cartomancie. Bon, ça n'a okay. rien à voir avec la sorcellerie, mais bon. Je sais pas si tu as vu, si tu as discuté avec beaucoup de personnes, mais les personnes qui pratiquent la sorcellerie pratiquent aussi, parfois et bien souvent, la cartomancie.
Ouais.
Voilà, donc c'est comme ça que je me suis intéressée.
Ok. Ouais, ça t'a fait un espèce de changement de terrain entre les maisons d'arrêt et finalement, ces gens qui pratiquent la sorcellerie, tu les as rencontrés comment?
Alors moi j'ai fait des ethnographies exploratoires sur YouTube et Internet.
Ouais.
Donc j'ai contacté des personnes sur YouTube et sur Facebook, dans les groupes et tout ça. Mmh. Alors c'était assez difficile au début parce que moi j'y connaissais absolument rien.
Mmh.
J'avais pas de formation en anthropologie du religieux parce que ma formation c'est anthropologie du religieux. Mmh. Mais de base moi je faisais l'anthropologie de l'alimentation et du droit pénitentiaire, rien à voir.
Mmh.
Donc je savais pas trop comment aborder les choses. Et quand j'ai contacté ces personnes, voilà, j'étais un petit peu naïve et je vois que des fois il y a des sujets assez touchy. J'ai demandé, oui, quelle différence, mais naïvement, hein, quelle différence il y a entre la magie verte, la magie noire, la magie blanche, pourquoi il y a autant de couleurs. Mm-hmm. Et j'ai cru déclencher une troisième guerre mondiale, tu vois.
Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on sent que c'est des milieux qui sont extrêmement structurés et qu'en fait, on est sur un champ qui est immense avec plein de pratiques, des fois, oui, voilà, qui n'ont rien à voir et qui ne sont même pas compatibles, quoi.
Et des fois, c'est réellement limite politique. Il y a des débats, c'est vraiment, ça fait penser à limite des débats politiques entre qu'est-ce que la vraie sorcellerie, la fausse sorcellerie, tout ça, il y a tout un débat autour de ça. Donc non, c'est très intéressant.
Ok, et dans ce champ très très vaste, toi, tu as réussi à trouver un fil rouge, quelque chose que tu as relié à l'alimentation, c'est ça ?
Exactement. Ce qu'on appelle la Kitchen Witch.
Ok, c'est passionnant. Tu peux m'en parler un petit peu ?
Bien sûr. En fait, c'est la sorcellerie de cuisine. En fait, tout ce qui est alimentation sert de vecteur lors de rituels de sorts en respectant une certaine, ce qu'on appelle des correspondances magiques. Je pense que tu en as déjà entendu parler de ça, non ?
On peut rappeler ce que c'est ?
En fait, par exemple, on va associer... par exemple, tu veux faire un gâteau.
Ouais.
Qui va, on va dire, ton sort, ton rituel va se construire autour d'un gâteau. Et pour ça, si tu veux, par exemple, avoir plus d'argent, tu vas penser, par exemple, à épargner. Mmh. Et du coup, la correspondance magique qui sert à épargner, c'est l'écureuil. Parce que l'écureuil, il met des noisettes lors d'hiver pour, tu vois, pour ce sont des réserves. Mmh. Donc, tu vas faire un gâteau aux noisettes, en fait. Voilà, c'est tout ça. Mais la sorcellerie, ça marche aussi. En fait, la correspondance magique, ça te sert d'avoir une certaine logique et une certaine assise, une certaine véracité, si tu veux, dans le sort ou dans le rituel. Pour les personnes qui pratiquent la sorcellerie. Comme ça, ça se fait pas comme ça. On va pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, c'est des correspondances.
Ah, c'est passionnant. Parce que du coup, ça se concrétise autour de quelque chose de vraiment tangible. Et qui est à la fois symbolique. On voit qu'il y a plusieurs plans qui se mélangent. Ah ouais, ok.
C'est de mettre l'immatérialité sous forme de matérialité de concret. Voilà, quelque chose que tu... Enfin, l'alimentation, c'est quelque chose de concret, en fait. C'est pas du vent. Donc, voilà, oui.
Ouais.
Et après, il y a de la sorcellerie à la carte. Alors là, ce sont des personnes qui vont mélanger tout type de sorcellerie avec des religions polythéistes, voilà.
Ouais, parce que ce que tu appelles... tu t'intéressais au néopaganisme.
Oui.
Ouais. Pour en faire un tout petit peu le contour, c'est quand même pas évident. C'est un néopaganisme, c'est un gros mélange.
Oui, c'est pour ça qu'en fait, au final, j'ai recentré mon sujet et que je me suis intéressée à la Kitchen Witch parce que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus facile parce que les néopaganismes, c'est trop large en fait.
Ouais.
Au final, on s'y perd.
Ouais. Et dis-moi, on parlait là de Jeanne Favre-Saada qui a fait son étude ethnographique dans le bocage mayennais et autour, voilà, qui a écrit un bouquin un peu... Qui a bouleversé un petit peu les méthodes en anthropologie, les mots, la mort, les sorts. Et donc Jeanne Favre-Saada, on voulait un peu en discuter aussi dans l'émission, dire c'est important quand on se présente. En fait, elle, sa façon de rentrer en ethnographie, c'est d'avoir été ensorcelée. Et au lieu d'étudier une croyance, des pratiques, de devenir elle-même en fait actrice de cette pratique et aller rentrer en sorcellerie. Et est-ce que toi, ça a été ton cas ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré ? Tu t'es dit, bon, bah, pour explorer la Kitchen Witch, il faut que je me mette à apprendre des recettes, à faire des recettes, à faire...
Oui, mais effectivement, oui, j'ai expérimenté... aussi par curiosité, mais je pense que l'anthropologie, c'est de vivre les choses, même toi-même. On parle d'observation participante, il y a la participation observante, enfin voilà. Donc oui, moi j'ai fait j'ai pratiqué aussi la Kitchen Witch, ça permet aussi de comprendre le pourquoi tu fais ça, comment tu le fais, etc.
Et est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est complètement interdit dans ces pratiques-là de faire manger des choses à des gens dans lesquels on a investi cette magie, mais de ne pas les mettre au courant, c'est-à-dire que des personnes qui soient non consentantes, est-ce que c'est possible ?
Alors, tout est possible. Après, ça, c'est à toi de savoir si tu as une éthique ou pas. Ça, c'est ton éthique, voilà. Mmh. C'est, tout est possible. Hein. Mmh. Par exemple, quand tu as un truc tout bête, bah, le couteau, ça sert à nourrir, mais ça sert aussi à tuer. À toi de voir comment tu vas, comment tu vas l'utiliser, tu vois.
Oui, et finalement, tu as peut-être plus observé des pratiques de protection que finalement des sorts maléfiques ou des choses qui viendraient nuire.
Oui. Après, c'est qu'un petit échantillon. Alors, je sais plus combien j'ai eu de personnes. Je crois que c'est 40, il me semble. Mm-hmm. Donc, non, ils sont plus dans la bienveillance que dans la malveillance. Après, j'ai pas forcément rencontré de personnes qui étaient dans le but de nuire à une personne. Non, ouais. J'ai pas rencontré, non.
Ouais.
Je pense que ces personnes, forcément, elles vont pas le dire, tu vois ce que je... Enfin,
exactement, exactement. Il y a une dimension que Jeanne Favre-Sada, elle en parle aussi, c'est-à-dire que personne ne se déclare comme sorcier, parce que là, le sort, il s'agit généralement d'une explication de la maladie, de la malchance, de la mort, et que quand on jette, voilà, quand il y a des sorts, des personnes ensorcelées, c'est généralement en fait qu'elles se sentent très très mal et qu'il y a une série de malheurs dans leur vie. Donc il y a personne qui se déclare sorcier, et c'est très c'est toujours une accusation en sorcellerie, mais personne qui assume. Ça, peut-être que c'est un peu différent de ce qu'on observe un petit peu là sur les réseaux, de gens en fait qui se revendiquent et pour des pratiques un peu positives en fait, de soins, de protection, de chance. Il y a les finances qui revient quand même assez souvent. On est quand même en crise politique, en crise de pouvoir, en crise démocratique. Et en crise économique aussi. Je crois que ça, à travers la sorcellerie, les pratiques, on le ressent aussi.
Il y a aussi en fait, beaucoup de demandes sur l'amour, l'argent. Voilà, l'amour et l'argent, c'est ce qui revient le plus souvent. Hein. C'est ce que j'ai pu constater aussi. C'est les deux thèmes qui reviennent très souvent.
Bon, c'est passionnant tout ça. Je pense qu'on a de quoi réaliser plusieurs podcasts.
C'est cool.
Ouais, je pense que je reviendrai vers toi assez rapidement. À bientôt, Julie.
Merci. Ciao. À bientôt. Salut.
Donc je vais vous partager un texte d'une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux en quête de témoignages sur la place de la sorcellerie dans nos vies, et des pages où il y a des gens qui s'intéressent à la sorcellerie et qui la pratiquent. Cette personne s'appelle Doubar et gère une gazette qui s'appelle la Gazette du Battleur. Et voilà ce que cette personne m'a écrit. Quitte à traiter d'un sujet au premier abord bizarre, pour la grande majorité des gens, à savoir celui de la sorcellerie, la première complexité est de définir s'il s'agit de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Ce point peut être extrêmement significatif, en particulier lorsque le praticien traverse une phase d'affirmation de soi. Personnellement, j'ai résolu ce cap compliqué du coming out par la conclusion que pour vivre heureux, il valait mieux vivre caché. Car oui, en 2024, on te menace encore de mort sur le bûcher ou des enfers pour pratiquer la sorcellerie, où on te regarde de travers. Certains ont pu se retrouver avec une enquête des services sociaux. Certains perdent des amis. Problèmes psy, déviance, déconnexion du réel. entre le potentiel pacte diabolique et la maladie mentale, les étiquettes et les prétextes à l'exclusion ne manquent pas. Donc déjà, se convaincre soi-même qu'il ne s'agit de rien de tout cela est bien suffisant, et chercher à en convaincre les autres est au final, à mes yeux, plutôt futile. Le terme de l'exclusion est au cœur de la problématique du sorcier. Une de ses étymologies désigne celui qui vit à la bordure, en frontière, à la haie, du village, du clan, du groupe. Cette position à la marge définit le praticien depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais paradoxalement, bien que le groupe et ses règles les excluent, on le garde sous le coude, pas trop loin, à disposition, au cas où. Le premier travail pour aborder tout cela est celui de la compréhension du monde. Cela en passe par la nature des mots, le sens des choses. On commence par déconstruire pour reconstruire. C'est une phase importante. On met à distance nos propres préjugés, nos idées toutes faites, reçues par l'héritage collectif. Puis on découvre la portée symbolique du monde. Au final, le sorcier finit par s'exclure lui-même. Le temps de la réflexion, le temps de l'apprentissage nécessite intériorisation, calme, pratique, l'établissement d'un rythme où l'on se cale sur des cycles, où on se met en phase avec soi, ses ressentis, des événements extérieurs également qui par définition sont intangibles, inexprimables, improuvables. Il faut pouvoir se lever à 4 heures du matin et sortir ses cartes ou sa planche de Ouija sans avoir à se justifier auprès de quelqu'un. Puis il faut pouvoir passer une semaine à réfléchir sur le sens de ce qui a été dit cette nuit-là sans que personne ne vienne interférer. Puis c'est le temps où viennent à toi des gens, des souffrances, des angoisses, des superstitions. Et tu dois déconstruire l'autre, pour l'autre. Tu t'exclus de toi-même. Tu t'investis totalement dans l'énergie, l'histoire, la souffrance de l'autre. Et l'apprentissage continue, car rien ne vient à soi par hasard. Le sorcier, c'est la boîte à outils cachée en lisière du bois qu'on ouvre quand le rationnel a touché ses limites. Qu'il suive une tradition ancestrale ou ait élaboré son propre craft, dans tous les cas, il devient un outil. La déconstruction et la reconstruction du monde sont l'acte de guérison qui sous-tend l'action du sorcier dans le monde. Quelle que soit la problématique, elle engendre une souffrance. Résoudre cette souffrance dans ce monde a été ostracisé et l'est toujours. Cependant, on ne s'y trompe pas. La sorcellerie est bien là, forte dans sa diversité, belle dans ses paradoxes, inspirante dans ses contradictions. Soigner, c'est faire quelque chose de plus que guérir et résoudre. Soigner quelqu'un, pour un praticien, c'est aussi soigner le monde. Il semer des graines d'un lierre qui vient remettre en question les acquis trop fortement enracinés. Le sorcier, premier anarchiste, cherchant à se libérer du déterminisme, ne pouvait qu'être la cible privilégiée de quiconque cherche le contrôle sur les gens. Si d'aucuns pointent du doigt un sorcier et prétendent qu'il faut le tuer, regarde plutôt ce dangereux assassin dans l'âme et demande-toi quel pouvoir sur toi il compte tirer de ce meurtre rituel. Le monde de l'invisible suit ses règles, et la multiplicité des traditions de sorcellerie ont tout en commun le but d'essayer de les saisir, les comprendre. Et la vérité semble bien être qu'il n'y en a pas une universelle, unilatérale, ou alors qu'elle nous reste inaccessible, puisque toutes ces approches existent bien et coexistent. Le souci majeur du domaine dans le monde actuel est le surcroît d'informations sans esprit critique. Trop d'intérêts issus de différents groupes de gens sont venus obscurcir encore le domaine de l'occulte. Comme en toute chose, il y a un mal pour un bien. Le mal étant une dissolution du sens des choses, et son bien étant que la magie, qui se définit par la création, la matérialisation de la pensée, voit émerger des formes hybrides, neuves, de pratiques. Ainsi, on ne sait plus que tirer les cartes ou pratiquer le magnétisme ne sont pas de la sorcellerie. On taxe le sorcier, celui qui a des prémonitions, aussi bien que celui qui pratique l'empathie animale. Le sens des mots et le sens des pratiques se trouvent noyés dans une surabondance de contenus instagrammables, dont l'esthétique ou l'intention sont certainement légitimes, et qui nous sommes pour en juger. Cependant même, si la pratique de l'occultisme amène nécessairement à du travail sur soi, elle ne peut en rien se résumer à du développement personnel. Pour un sorcier, s'il a effectué un changement sur lui-même, ça ne se fera pas juste par une mise en pratique d'une façon de vivre, sur un modèle spirituel ou religieux par exemple, mais simplement par la réalisation d'un craft qui, lui, dans sa mise en application, conduit alors à des comportements. Une phrase entendue un jour dans un bus résume bien cela. Alors que deux jeunes filles, peut-être de 15 ou 16 ans, discutaient, j'entends l'une dire à l'autre « Ça y est, je suis presque gothique. Ce week-end, maman va m'acheter la paire de chaussures que j'attends trop. » Avoir à leur expliquer ce qu'est le mouvement gothique représente trop d'investissement et assez peu d'intérêt pour moi. Mais à d'autres niveaux, ce temps vient où à son tour on transmet, on raconte, on explique. Dans ma pratique au quotidien, j'en suis là pour l'heure. Après les mises en œuvre de solutions à la place des autres, je transmets à qui le demande les moyens de les résoudre par eux-mêmes.
Ensorcelé de la fumée, tout le monde a l'air de se faire tatouer et ça se voit. Ensorcelé et j'ai oublié mon sac de sport à côté de chez moi à Dinan. Ensorcelé de Moumine, je pense qu'il est en train d'écrire ça. En plus, c'est un truc trop bien, je sais pas pourquoi tu veux que je te parle. Ensorcelé par la semaine de taf et de toute manière, on se rejoint vers le bar où il y aura des gens de Twitter pour les appeler pour que ça vous arrange. Mais si vous voulez venir vous rejoindre, je suis à Paris. Ensorcelé par un petit coup, ça va être cool, mais c'est pas si compliqué de te tenir informé. Et si ça vous dit, je te donne un rendez-vous.
J'ai prise.
On va tenter maintenant de faire une expérience de télépathie radiophonique en direct de la rue avec Flo. Est-ce que Flo, t'es avec nous ?
Flo, es-tu là ?
C'est le moment de combler Flo, en attendant que la rue rennaise se réveille.
Pour passer à la radio ? Non ? Vous voulez pas passer à la radio ? Vous avez peur d'être ensorcelé ?
Alors, ce que vous entendez là, c'est la rue à côté du studio, maintenant.
C'est un appel à ce que moi je discute avec vous, en tout cas. Est-ce que toi tu voudrais en parler ? Ok, bah merci. Il y a un léger décalage. Je vous entends, mais en léger décalage.
Ah, super, Flo. Est-ce que tu as trouvé. Une personne
Allô
intéressée ? Ouais, t'es avec nous ?
Ouais, j'ai trouvé des personnes, mais pas sur le temps là. Pas maintenant, quoi.
Pas sur le moment, ok.
Oui, pas sur le moment.
Tu veux qu'on cherche un petit peu avec toi, une minute ? La prochaine personne qui est en face de toi ?
Ouais. Bonjour. On est en train de faire une émission à Canal B. Je sais pas si vous connaissez la radio Canal B.
Non.
Mais en fait, il y a des gens qui sont en direct dans mon oreille, que j'entends en écho. Et je suis à l'extérieur pour vous poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà senti ensorcelé ?
Ensorcelé par quelqu'un ?
Par quelqu'un, oui, par quelqu'un ou par... oui ?
Non.
Ou manipulé ?
Non plus.
Est-ce que vous sentez que vous résistez à une manipulation extérieure des fois ?
Non.
Vous n'avez pas... Est-ce que vous croyez au pouvoir des mots ?
Sur l'impact que ça peut avoir sur lui ? Ouais. Ouais, je pense.
Est-ce qu'il y a des mots qui résonnent, par exemple, ou que vous avez dit, qui pourraient être des sorts jetés ?
Pas forcément des sorts, mais des réflexions que des gens peuvent avoir, oui, ça peut avoir l'impact sur une vie de quelqu'un.
Et quel impact ?
Bah, que la personne peut y penser plusieurs fois, que ça peut la marquer. C'est comme ça.
Et comment on peut résister à ça ? Est-ce que toi, t'as des moyens de résister à ça ?
Bah, je pense que c'est en parler et pas se renfermer sur soi-même. Et c'est dur, mais d'essayer de pas y penser.
Et toi, ça te fait penser à quelque chose ?
Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit.
Est-ce qu'il y a un mot auquel tu penses qui peut être ensorcelant ?
Bah, pas précisément, mais il y a des mots qui peuvent être blessants et qui peuvent avoir un impact.
Est-ce que tu penses, par exemple, en écoutant la radio, en regardant la télé, en regardant des vidéos, que tu peux... Il y a des mots qui peuvent arriver à ton oreille et qui peuvent changer ta vie ?
Oui, il peut y avoir des phrases qui marquent et qui changent la vie.
Merci.
Pas de problème.
Vous êtes toujours là, j'entends vos
respiration.
J'entends vos chaises craquer.
C'est la mienne, ouais. Et ben ouais, on est toujours là.
Ouais,
et
on
toi
est toujours là. Ça se passe comment ?
Bah, ça se passe, il y a des gens qui passent.
Ça se passe.
Et
toi, tu te sens ensorcelé, Flo ? Comment tu te sens ?
Moi, je me sens carrément ensorcelé, ouais.
Ouais.
J'essaye de trouver des remèdes.
Lesquels, par exemple ?
Lesquels ? Je trouve qu'elle avait raison. Parler, c'est pas mal. Et à la fois, je sais qu'il n'y a pas que ça. Mais ouais.
Ouais, tu parlais du pouvoir des mots.
Ouais, le pouvoir des mots, je pense qu'il est vachement important. Et que on n'y pense pas assez. Et est-ce que vous voulez que je vous lise
ton compte ?
Mon compte ?
Oui, ouais.
Tant
ouais.
que j'y suis. Alors, mon compte. Je vais le chercher.
C'est un compte pour désorceler ?
Est-ce que c'est un compte pour désorceler ? Je sais pas. Peut-être pour. Oui, je pense, par rapport à ce que disait Doubar tout à l'heure, ça peut. Alors, j'augmente la luminosité de mon écran parce que je vois rien. Vous êtes prête ?
Oui. Ouais.
Dans la ville carton, il y avait 3 tours. Une petite, une moyenne, une grande. Du haut des tours, des gens criaient. Mais pas n'importe quels gens. Il y avait Jean Talu, Jean Triff et Jean Sienne. Jean Triff était en haut de la plus grande des tours et criait le plus fort que tous les autres. Et les mots qu'il criait, il les choisissait bien. En 3 ans, les dictionnaires avaient changé de forme, de couleur. Tous les mois, il y avait une nouvelle édition, avec des mots-valises en plus. Mais il désépicissait du tiers. Depuis 3 ans, tous les gens s'appelaient Jean. Ils étaient tous pareils, mais ils avaient l'impression d'avoir tous un truc en plus. Ils écoutaient tous Triff FM, la voix du grand Jean Triff. Ils étaient tous malades, mais comme tout le monde était malade, c'était devenu normal. Plus personne ne soignait personne, et puis il y en a qui essayaient de gueuler un peu, mais personne ne s'entendait plus. Pendant que Jean Triff meuglait, la moyenne tour devenait de plus en plus grande, et la petite de plus en plus petite, si bien que le jour où Jean Talu a dépassé Jean Triff, les dicots ont carrément disparu. Jean Sienne, elle, avait la plus petite tour, une tour verte, crochue, avec des poils sur le menton. Pendant tout ce temps, elle a fait plein de petites tours avec plein de petites Jeannes. Elle a mis des roues un peu partout sur les tours. Elles se sont mises à chuchoter, tout ensemble, puis à se disperser pour ramener des mots, plein de petits mots marrants. Brique, flûte, nefle, clou, houle, gourde, tif, fut, orgue, crawl, cric. Et les gens rabougris, qui n'avaient plus de mots à mettre sur les maudits, ont écrit leur propre dico, qu'ils se refilaient sous les bras. Et elles continuaient tous à tousser, courbées, en se tenant les côtes, mais dans les ruelles sombres, ça griffonnait et ça causait dur.
Merci. On peut remercier la rue aussi pour cette ambiance sonore très chouette. Et merci pour ta poésie.
Merci, Flan.
Et on passe à la suite ? C'est quoi la suite ? Je regarde.
Alors, on a toujours les poèmes absurdes de...
On y va d'ailleurs.
D'Ingrid, qu'elle fait avec son téléphone. Elle a ensorcelé son téléphone. C'est parti.
Ensorcelée par le film de Jacques en tout genre, dans la fumée du tout petit bout de chou à côté du jardin, et des selfies débiles qui sont à l'aise dans le monde entier. Mais ça fait pas mal du tout, et c'est vraiment un bon moment de chez nous. Ensorcelée, j'ai croisé une fille de chez ma psy, elle est trop cool. Elle m'a fait une bonne nuit. Ensorcelée de chez toi, je pense qu'il faut que je vienne chez moi pour te voir. Je pense qu'il y aura des vacances avec elle parce que je suis pas trop fatiguée. Ensorcelée par le soleil et les autres, je pense qu'il va être bien cool si tu veux venir avec moi. À demain.
vous m'entendez? Ah, salut.
Coucou.
Alors, je suis... Salut. Tu t'appelles comment?
Je m'appelle Stan.
Et tu proposais de faire du beatbox?
Exactement.
Est-ce que tu penses que le beatbox, ça ensorcelle les gens?
Bien sûr, tout ce qui peut dégager des vibrations avec notre voix et notre bouche peut ensorceler les gens, en effet, oui. Les mots sont très importants, tout comme le son qu'on peut immaler de cette bouche. Je peux le faire là, tout de suite, maintenant?
Carrément.
Yeah, come on, I've read it. Voilà, est-ce
merci.
Que vous avez aimé?
Okay. Ouais. Et quelle intention tu mettais dans cette...
De l'amour. De l'amour, c'est très important à partager. Soyez bienveillants avec votre prochain et avec vous-même, et le monde se portera mieux.
Merci, merci pour ta participation. Cool.
Mon nom d'artiste, c'est Stan Chinao. Retrouvable sur Insta, TikTok et YouTube. Je fais du rap impro également.
Merci. Trop cool. Allô, vous êtes là? Ah bon.
Cher détesté, tu aurais pu te trouver sur mon passage, alors peut-être tu aurais changé ma vie. Et je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Je n'ai jamais eu affaire à toi. D'ailleurs, officiellement, tu n'as plus d'existence légale, en France du moins, et ce depuis 2022 seulement. Il paraîtrait que je sois ensorcelée. Il paraîtrait que je sois déviante. Il paraîtrait que tu sois là pour m'aider, et pour aider, plus largement, toutes les personnes de ma communauté. Cher détesté, laisse-moi d'abord te présenter à celles et ceux, à celles qui ne te connaîtraient pas. Tes défenseuses t'appellent thérapie de conversion. Tu es cet ensemble de pratiques douteuses ayant pour but de modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre de certaines personnes. Les homosexuels, les gays, les lesbiennes, les bisexuels seraient convertis grâce à toi et tes disciples en de bons et de bonnes hétérosexuels. Les personnes transgenres et ou non binaires seraient converties à la cisgenre identité Et toutes les personnes qui n'en renverraient pas l'image binaire attendue seraient converties aussi. Dans ton logiciel rétrograde, il n'y a que deux manières d'être. Soit tu es une femme cisgenre hétéro, soit tu es un homme cisgenre hétéro. D'ailleurs, tu te nommes thérapie, celle-là même qui signifie soin. Je te rappelle au passage que l'homophobie et la transphobie n'ont jamais soigné qui que ce soit. Tes pratiques tuent. Tes pratiques causent de graves souffrances et traumatismes psychologiques et physiques aux personnes concernées. Laisse-moi aussi te rappeler que tes dites thérapies ont été assimilées par l'ONU à des actes de torture en 2020. Tes sbires ne sont pas vraiment d'accord entre elles quant à l'origine de nos déviances et à la manière de nous en sauver. Tantôt, nous serions des malades à soigner avec des médicaments, des hormones, des stéroïdes. Ou bien, nous aurions vécu un événement traumatisant dans notre éducation et notre mal serait traité avec un suivi psychologique. Ou encore, nous serions anormaux selon les préceptes religieux et la guérison se trouverait dans l'abstinence, le célibat, le suivi de rites religieux. Tes châtiments soins sont divers, violences physiques et psychologiques, électrochocs, procédures pseudomédicales, insultes LGBTQIAophobes, exorcisme. La liste est loin d'être exhaustive. Je ne suis pas étonnée que tu trouves tes racines au XIXe siècle, là où la psychiatrie et la psychologie ont considéré l'homosexualité comme une maladie mentale, là où les États l'ont criminalisée, là où la religion l'a considérée anormale. Puis, dans les années 70, tu es portée par l'Église évangéliste aux États-Unis. Les thérapies de conversion se répandent dans le monde. Et ce n'est qu'en 1992 que l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales et seulement en 2019 pour les transidentités. Tes victimes, chères détestées, sont les jeunes. 4 personnes sur 5 ayant subi tes pratiques sont âgées de 24 ans ou moins. Et sur ces personnes, environ la moitié avait moins de 18 ans. Tu n'ignores pas qu'à cet âge, les jeunes homosexuels et les transgenres ont 2 à 7 fois plus de chances de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. Et je ne te parle pas de celles qui ont subi ta thérapie, qui, selon une étude de l'Association américaine de psychologie, multiplierait le risque de suicide par 5. Tes victimes sont sujets à de nombreux troubles à cause de toi. Perte d'estime de soi, anxiété, troubles dépressifs, isolement social, problèmes relationnels, haine de soi, troubles post-traumatiques, idées suicidaires, tentatives de suicide. Je me répète, tu vas me dire. Chère détestable thérapie de conversion, je parle de toi au singulier alors que tu es multiple, alors que tu te multiplies aussi. Tu es une nébuleuse composée d'humains, d'humaines, de fanatiques, de pseudo-scientifiques, de pseudo-médecins, de pseudo-religieux, de pseudo-guérisseurs, guérisseuses, de fonctionnaires, de juges, de policiers, de politiques, de parents de victimes, de personnes de toute confession religieuse autant que d'athées, de pauvres autant que de riches, d'occidentaux autant que de non-occidentaux. Tu es partout, tout le temps. Tu appartiens au passé et tu existes toujours aujourd'hui. Tu seras demain. Tu n'es pas seule. Tu es au-delà de toi-même. Tu te souviens du mariage pour tous, en 2013 en France. Tu te souviens de la PMA qui n'est toujours pas ouverte aux personnes trans. Tu sais aujourd'hui que l'homosexualité est encore réprimée par la loi dans 69 pays du monde et passible de la peine de mort dans 12. Tu sais que les atteintes envers les personnes LGBTQIA+, ont augmenté de 19% en France en 2023 par rapport à l'année dernière. Pour les crimes et délits tels que diffamation, agression, menace, harcèlement. Et encore, toi qui es souvent clandestine, tu n'ignores pas que ce n'est que la petite partie immergée de l'iceberg des violences LGBTQIA+. Autant te le dire, et tu le sais déjà, tu as malheureusement de beaux jours devant toi. Tu n'ignores pas non plus, en ce moment en France, la proposition de loi transphobe déposée par les Républicains et le Rassemblement National qui vise à interdire la transition de genre pour les mineurs et à la criminaliser si les médecins les aident. Détestable thérapie de conversion, tu as de beaux jours devant toi et dans ma gorge un coup de poudre, un goût de foudre.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Interférence. Coupure dans le discours courant du brouillardage médiatique. Moment de silence, de répit, où peut se redévelopper l'accès à la pensée propre et à la fabrication collective de sens. Les actions qualifiées d'interférences sorcières provoquent des ruptures dans le continuum bourdonnant de la pensée unique qui nous envoûte. La chape de plomb devient trouée par les bulles d'air neuf produits et a le pouvoir de réveiller les participants, eux, à ses actions. D'action en action, les moments de silence, de répit et les bulles d'air neuf se multiplient et communiquent jusqu'à former un réseau, semblable à des racines souterraines prêtes à faire craquer l'ancien monde. Le but d'une interférence sorcière est de faire entendre la musique masquée par la voix des maîtres, de faire entendre le silence auquel nous sommes réduits, te, et de le repeupler par des chants, par nos voix. Dérivés vers, disruption, saxifrage, brouillage.
Donc on vient d'écouter un extrait
du glossaire du désorcellement de la, de désorceler la finance.
Ouais.
Le premier épisode, le logement.
C'est un programme, une émission qu'on avait.
Alors c'était pas ça exactement, mais on avait, c'était une fiction de désorceler la finance qu'on avait diffusée. Et tout ce qui est autour de désorceler la finance, c'est possible de le trouver sur sur SoundCloud. Et Galm, enfin, ce qu'on entend, Gamel, des sons qu'on a entendus musicaux, ça fait partie aussi de ce groupe-là de création.
Et c'est maintenant la fin de cette émission spéciale sur le terme ensorcelé et le thème également. Ça va, vous allez bien, vous avez passé une belle émission?
Oui, moi je me sens...
On débrief.
Je me sens dans un autre monde un petit peu, dans le monde des ondes. Est-ce qu'on a expliqué toutes les références qu'on a diffusées ici? Est-ce qu'on a tout dit?
Moi, je voulais juste rajouter un remerciement. Je voulais remercier Charlie pour m'avoir glissé cette idée de chronique, de m'avoir relu, et pour lui dire que je l'embrasse.
Merci Charlie.
Moi aussi je voulais remercier les personnes que j'ai pu interviewer. Julie, Doubar, merci beaucoup pour votre confiance. C'est super de se rencontrer dans ce cadre-là. Merci.
Et moi je remercie les personnes que j'ai rencontrées dans la rue et Shawan qui m'a donné toute une pile de bouquins à noter et de références par rapport au thème de l'émission.
Et on remercie aussi la personne qui a fait du beatbox dans la rue et en direct sur notre émission. Et je sais plus c'est quoi ton nom, mais il est dans le studio actuellement, il nous fait un signe. Merci. Stan Chinao, merci.
Et merci à Canal B.
Merci à Canal B.
Merci aux auditeurs.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire à Canal B. Et on espère que l'émission vous a plu, vous a ensorcelé aussi. Et on vous dit à bientôt.
Salut.
Et on vous laisse avec Gamel.
Ouais.
Et lui.
Yes.
Sonore. Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.